Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, il y a un véhicule qui a fait énormément jaser cette semaine. En fait, ça a été un stunt publicitaire incroyable pour General Motors.
Et on n'a pas fini d'en entendre parler, j'ai bien l'impression.
C'est sûr. On parle évidemment du Hummer, qui a été aussi important pour son dévoilement que le Cybertruck l'a été pour Tesla il y a quelques mois. On se souvient de la tollée que ça avait soulevé, ce véhicule-là. Le Hummer, c'est la même chose. Et je trouve qu'on a réussi un tour de force au point de réussir à faire oublier les anciens Hummer et l'image péjorative qui les accompagnait. Alors, on est avec nous aujourd'hui, on a le directeur des communications de General Motors pour le Québec, Philippe-André Bisson.
Bienvenue, j'espère,
Philippe, n'écoutera pas la première partie de notre émission. Tu n'es pas obligé de le faire, mais merci d'être là quand même. C'était pas trop méchant, je te le garantis. Alors, bienvenue, Philippe.
Merci de me recevoir, les gars. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du GMC Hummer. Et puis, tu peux être sûr que tu as piqué ma curiosité et que je vais aller écouter la première partie de l'entrevue.
Ben non, t'as pas besoin. Écoute, je t'appelle. on veut parler du GMC Hummer. Puis je pense que la première question que j'ai pour toi, bon, je pense que tout le monde l'a vu de toute façon. Et même si je voulais vous le montrer, on est à radio, donc c'est dur. Mais tout le monde a vu le Hummer. Tout le monde a vu à quel point c'était des spécifications hors normes. C'était un véhicule hors norme, c'est ostentatoire, c'est in your face de A à Z. Mais au-delà du produit comme tel, je pense que le premier élément qui, moi, me réjouit beaucoup, c'est le fait qu'on le retrouve sous l'emblème GMC. Et pour une première fois en plusieurs décennies, j'oserais dire, on a un produit chez GMC qui n'a pas d'équivalent chez Chevrolet.
Je me rappelle même pas c'était quand la dernière fois, en fait.
Là. Non, il n'y en avait pas. Fait que c'est quelque chose de quand même bien. Vois-tu une stratégie intéressante autour de ça, toi, Philippe?
Ben, écoutez, oui. Premièrement, notre plan chez GM, quand on a sorti le GMC Hummer, c'était de créer un super stock électrique. Donc, avec les meilleures capacités en route de l'industrie. Vous avez vu comme moi la vidéo aussi du lancement. Je pense qu'on a frappé dans le mille avec ce produit-là. On a ramené le nom Hummer. Donc, il y en a beaucoup qui étaient surpris de ça. Mais il faut se rappeler aussi qu'à une certaine époque, les Hummer, ça signifiait aussi, c'est un signe de puissance. C'était un signe aussi de camions qui étaient capables de faire à peu près n'importe quoi. Puis comment je les appelle, les badass aussi. Là. Désolé pour les anglicismes, il va y en avoir un petit peu durant cette entrevue-là.
C'est correct.
Mais ramener le nom Hummer dans un véhicule 100% électrique, pour moi, d'un côté marketing, je trouve que c'est un coup de génie.
Est-ce que GMC, et ça c'est mon impression personnelle, est-ce que GMC tente de se différencier encore davantage de Chevrolet? Parce que, pour la petite histoire, les gens au Québec sont peut-être pas au courant, mais GMC, par rapport au reste de l'Amérique du Nord, est très fort comme marque au Québec et même au Canada. Il se vend à peu près le même nombre de camions GMC que de Chevrolet chez nous.
Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
Ce qui n'est vraiment pas le cas aux États-Unis. Là, si vous comparez Sierra Silverado, par exemple, c'est du 1 pour 1 au Canada. Et aux États-Unis, c'est 5 Chevrolet Silverado pour un Sierra. Alors, on est complètement ailleurs. Mais GMC tente de revenir et de se différencier un peu plus. Et mon impression, c'est qu'on veut aller jouer dans la talle de Jeep et dans la talle de Bronco. Ford, on le sait, a relancé la marque Bronco.
Avec une approche un peu plus hors-route, là, si on
ouais,
veut.
Oui, un peu plus camion, un peu plus costaud, angulaire, c'est ouais. Ça. Alors, est-ce que tu as une impression à ce sujet-là?
Oui, ben ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que c'est pas une impression. C'est vraiment ce que GMC essaie de faire avec les modèles AT4. Avant, l'AT4, c'était réservé à nos camions. Donc, le Sierra, le Canyon avaient ces versions-là. Maintenant, on retrouve une version AT4 à l'entièreté de notre ligne de produits GMC. Donc, l'Acadia, maintenant, vient en version AT4. On a aussi le Terrain qui s'en vient en version AT4. Donc, le Canyon, qu'on a ajouté aussi au courant de l'année dernière. Donc, ouais. On veut vraiment, puis comme tu dis, il y a une espèce de popularité vraiment, vraiment accrue, intense autour des véhicules hors route. On a juste vu, puis c'est en l'honneur de Ford, quand ils ont sorti le Bronco, écoute, ça a été un gros stun. On a vu à quel point ce modèle-là devenait populaire. Et aussi, Jeep. Jeep sont un peu toutes seules. On veut être sûr maintenant de pouvoir leur faire une compétition. Donc, les modèles AT4, que je considère comme des modèles, moi, je les appelle nos hors-route capable. Donc, ils sont capables de certaines fonctions hors-route, mais c'est pas des purs hors-route, comme exemple un Ford Raptor, exemple. Mais ce qu'on veut faire avec cette marque-là, puis je m'en tirerai pas plus loin, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on regarde vraiment pour que la ligne AT4 chez GMC devienne vraiment des véhicules purs hors route. Donc, okay. Pour compétitionner contre les Jeeps et les Broncos de ce monde.
Tant qu'à parler de en route, il y a une nouvelle fonction qui est assez intéressante avec le nouveau Hummer, c'est la fonction Crab Walk. Bon, ouais. Comment on a eu cette idée-là et surtout pourquoi on a intégré cette technologie-là? Donc, peut-être pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, là, ça permet au véhicule de se déplacer de manière presque latérale. Là,
donc, en fait, on a quatre roues diagonale, directionnelles.
Oui, et avec le même angle. De virage à
très
l'arrière
prononcé,
qu'à l'avant.
À l'avant, aller donc, à l'arrière. Mais c'est bon pour se stationner en parallèle sur le plateau.
Oui,
mais ça fait plus...
ça peut être ça. Moi, j'ai toujours dit, je descends mes amis cette semaine, j'ai tellement hâte de voir un GMC Hummer se stationner en parallèle sur le plateau avec la Crab Walk. Mais pour sans faire de blague, là, comme tu l'as dit, Antoine, c'est four-wheel steering. Donc, c'est des roues qui peuvent se tourner de 10 degrés. Pour les gens qui aimeraient comprendre ce qu'on explique, vous pouvez aller sur GMCCanada.ca et on a la vidéo et on démontre aussi les fonctions de la marche crab. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va tourner vos roues à 10 degrés. Et c'est venu de l'idée de... On parlait avec des gens d'en route. Puis les gens d'en route nous disaient que des fois, dans certaines conditions, il y aurait besoin qu'un véhicule puisse faire ou avoir cette fonction-là. Donc là, on est parti de ce point-là. Puis on s'est dit, pourquoi pas ajouter? Premièrement, ça frappe l'imaginaire. C'est quelque chose qui n'était jamais vu avant dans l'industrie. Ça fait énormément jaser par rapport au mur. Je dirais, dans toutes les fonctions qu'on a annoncées, puis il y en a beaucoup, le crab walk, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Les gens sont un peu fascinés par ça. Donc, c'était l'idée. C'était un peu de fasciner l'imaginaire. C'était d'offrir quelque chose aux puristes qui font du hors-route, quelque chose qu'ils ont demandé, qu'ils trouvaient qu'eux pourraient être utiles, puis on a ajouté ça sur le hummer.
Puis en même temps, ben on s'entend que c'est un véhicule qui est quand même un peu plus gros qu'un Jeep Wrangler ou qu'un Ford Bronco. Donc, d'avoir une fonction qui permet de se glisser un peu plus facilement dans les sentiers, hors des sentiers battus, pardon, ben ça va juste être pratique parce que c'est pas tout petit, là, un Hummer. Je voulais revenir sur l'image de Hummer, parce qu'on se souvient que la marque Hummer a été créée par General Motors au milieu des années 90, alors qu'on avait adapté des versions civiles de véhicules militaires qui étaient des AM General Humvee à l'époque. Et ensuite est né, plusieurs années plus tard, le H2 qui était basé sur un châssis de Suburban. Fait intéressant, c'est toujours le cas. Le nouveau Hummer utilise la plateforme T1 des camions pleine grandeur de GM. Mais évidemment, on a vu ce qui est arrivé. Donc, en 2002, on est arrivé avec Hummer, tu le disais un peu plus tôt, un véhicule qui avait l'air d'un gros Tonka, qui était super attrayant, qui avait un look d'enfer. Mais rapidement, évidemment, il y a une image péjorative qu'on a associée à la marque Hummer.
Oui, parce qu'en plus d'avoir l'air là, d'un véhicule de macho, bien, on avait l'image d'un polluant. Là.
C'est à partir de 2006 où les ventes ont chuté drastiquement parce que le prix de l'essence, lui, a grimpé drastiquement. Et et pour une raison X, c'est le Hummer qui a écopé de ce rôle-là d'avoir l'air du camion le plus polluant de la Terre. Et soudainement, tu as vu la valeur de revente de ces camions-là baisser, les ventes chuter drastiquement. Et on sait ce qui est arrivé. Bien, Hummer est passé dans le bistouri de la faillite de GM en 2009 avec Pontiac, Saturn et Saab. Donc, la marque Hummer et l'image Hummer en a pris pour son rhume, si bien qu'aujourd'hui, quand tu regardes des Hummers d'occasion, ça ne vaut pas grand-chose, ce n'est pas particulièrement recherché. Et pourtant, il n'y a pas plus de raison que ça ne se vende pas qu'un autre camion. Alors, est-ce que GM était long, et mon préambule était long, là, mais est-ce que GM a étudié cette question-là et a travaillé de façon à ce qu'on se débarrasse de cette image-là pour ramener un produit qui est complètement hors norme et qui cloue le bec à ceux qui osent condamner l'image de la marque Hummer?
Ben écoute, Antoine, c'est sûr que je te cacherai pas que Hummer, bon, ça a eu une image un peu péjorative ou rendue, je te dirais, quand le prix du pétrole, le baril de pétrole a monté en 2006, c'est vraiment là que les ventes ont chuté. Mais avant ça, il faut se rappeler qu'on en vendait quand même pas mal de Hummer.
Ouais.
C'était un modèle qui était quand même très populaire pour GM, qui était lucratif aussi pour GM.
Première année, donc, si ma mémoire est bonne, c'était 38 000 Hummer H2 qui ont été vendus en Amérique du Nord, c'est pas rien, là.
Ouais. Non, c'est pas rien, puis c'était un modèle, encore une fois, qui rapportait un certain profit aussi. Donc, l'image d'Hummer, moi, quand j'étais jeune, les gars, écoute, j'ai à peu près, j'étais un peu plus vieux que Germain, j'ai 33 ans, pas trop loin d'Antoine. Là, Hummer, c'est un nom qui résonnait énormément fort. T'sais, c'était, encore une fois, un véhicule badass. Donc, quand tu crées un super truck, puis tu veux y donner un nom, le nom Hummer va rappeler certains souvenirs à beaucoup de gens, surtout de ma génération à moi. On y a des affiliations avec le militaire, comme tu as dit. Donc là, c'est de ramener ce véhicule-là dans une version 100% électrique. Donc, le problème qu'on y reprochait au Hummer, c'était le gros rêve américain. C'est le gros véhicule polluant que tu n'as pas de besoin. Mais pour certaines personnes, c'était un mode de vie, c'est un Hummer. Puis il y avait des capacités uniques à ce véhicule-là qui faisaient en sorte qu'on en vendait. Mais le problème, c'était la consommation et puis l'empreinte environnementale.
Ben, je dirais...
on règle le problème en ramenant l'Hummer électrique. Fait qu'on garde le nom de puissance, mais on cloue le bec à ceux qui disent que c'est un véhicule qui était non, qui consommait beaucoup. Maintenant, on le ramène en 100% électrique. Donc, c'est un peu l'idée en arrière de ça.
OK. Bon, évidemment, le nouveau Hummer, c'est gigantesque. C'est, je le disais tantôt, ostentatoire. Il y a 10 millions de fonctions qu'on peut pas imaginer là-dessus. Les panneaux de toit multiples qu'on peut retirer, la lunette arrière. C'est un pick-up. Les gens pensent, oublient ça, mais c'est quand même une camionnette, donc il y a une caisse à l'arrière. Évidemment, une autre caractéristique qui, moi, je trouve super tripante, c'est la caméra de sous-bassement. Donc, ça te permet de voir ce qui se passe sous le véhicule quand tu circutes en conduite hors route ou quand tu roules sur l'autoroute Ville-Marie et tu ne veux pas pogner de nid de poule. Quoique, avec ça, c'est pas trop grave.
Hein, on s'entend?
Oui, c'est très capable.
Il y a même une fonction, il y a même un launch control où tu abaisses la suspension au niveau minimal. Il y a un jeu de 150 mm d'écart de suspension.
Parce qu'on mise autant sur les performances que sur les capacités. Là,
c'est
en
ça.
Route.
Fait que ce véhicule-là impressionne à tous les niveaux. 1000 chevaux, 11 500 livres de couple. On y reviendra sur ce couple-là. Mais est-ce que le fait de lancer un véhicule avec des caractéristiques comme ça, gros comme ça, et qui en même temps est vert, parce qu'on s'entend que ça pollue pas, un camion comme celui-là, est-ce que ça cloue pas le bec non seulement à ceux qui condamnaient la marque Hummer, mais à tous ceux qui condamnent le fait que de plus en plus, on voit des VUS, des gros camions sur la route? Est-ce que, pour vous, c'est une stratégie qui risque de s'étendre à l'ensemble des produits chez General Motors?
Ben écoute, c'est sûr que le Hummer, bon, on l'a tous vu, là, il est gros, mais écoutez, ça s'adresse aussi à une clientèle.
Il n'est pas gros, il est gigantesque.
Et il y a une clientèle qui recherche ça. Donc, il y a des gens, moi, je regardais ça un peu aller, il y a des gens qui sont estomaqués par le modèle, puis il y en a d'autres qui pensent que, dû à la grosseur, ça ne se vendra pas. Moi, ce que je peux vous dire, puis je te l'ai partagé sans toi il n'y a pas longtemps, ça l'a pris 8 minutes 35 secondes et nos ventes étaient complétées pour la première année. Ouais. Donc, il y a vraiment un marché qui s'intéresse à ça. Je crois qu'on a frappé dans le mille en ramenant ça sous le nom d'Hummer. Et oui, c'est un peu pour clouer le bec à certaines personnes qui pensent que Hummer, c'est justement relié à un véhicule qui consomme énormément. Donc, oui, on a rajouté beaucoup de choses. Il y a l'Extract Mode qui peut lever la suspension de 6 pouces, le Cram Mode, tout le Underbody Panel qui est fait en dessous du véhicule pour résister, dans le fond, au choc qu'on pourrait avoir en faisant du hors-route. La suspension adaptative, des pneus de 35 pouces, le 1000 chevaux vapeur. Tu faisais référence aussi au Launch Control. On l'appelle le WTF Mode, le What to Freedom Mode. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va abaisser votre suspension de 2 pouces et puis ça va refroidir vos batteries, dans le fond. Et c'est le parallèle le plus simple à faire, c'est un Launch Control. Donc, ça va vous permettre de faire le 0-100 en 3 secondes, ce qui est exactement le même temps que notre nouvelle Corvette C8. Quand on y pense, c'est assez...
Mais dans un format et avec une technologie un peu...
Oui, puis j'ajouterais que ce qui est intéressant, quand j'ai assisté à la présentation, c'est que c'est la même équipe qui a travaillé sur la Corvette, qui a été transférée sur le Hummer après.
C'est vraiment une équipe de projets spéciaux. Là.
Absolument. Absolument.
Tu nous mentionnais, Philippe...
18 mois.
Oui, c'est ça. Ça s'est fait très rapidement, mais il reste quelque chose à fignoler aussi, j'imagine. Tu nous mentionnais, Philippe-André, que en 8 minutes et quelques secondes, le Hummer était sold out, là, en bon français, pour la première année de production. D'ailleurs, il a été mentionné à ce moment-là que la production allait débuter à la fin de 2021, mais que pour le marché canadien, on allait devoir attendre à la fin de l'année 2022 pour avoir droit, finalement, aux premières unités. Comment on explique que, finalement, le Canada passe en deuxième?
Écoutez, il n'y a pas juste le Canada, il y a aussi le Middle East. Donc, le Canada, ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'il va quand même recevoir sa production en même temps ou un peu avant le Middle East. Donc, pourquoi les États-Unis en premier? Il faut comprendre que le GMC Hummer, c'est un modèle qui va être quand même limité. Là. On ne parle pas d'un modèle de production. Donc, on voulait se consacrer aux États-Unis en premier. On voulait prendre les commandes.
Excuse-moi, quand tu dis que tu ne parles pas d'un modèle de production, tu ne parles pas d'un modèle de grande série. Est-ce que vous avez à peu près des chiffres de production annuels que vous avez en tête?
Non, ça, ben écoute, pas que je peux te partager malheureusement aujourd'hui avec vous, les boys, mais écoutez, ça, ces chiffres-là vont sortir un peu plus près de la date qu'on va avoir les modèles Toyota. Donc, on parle d'automne 2022. Ça pourrait être un petit peu avant ça, mais moi, je vais rester safe. On va dire automne 2022. Donc, pour les chiffres, comme le prix canadien, d'ailleurs, on va falloir attendre un peu plus près du lancement, du modèle qui arrive au Canada pour pouvoir parler de ces chiffres-là. Mais comme je vous dis, le Canada ne sera pas laissé en reste. On veut desservir le marché canadien comme le marché du Middle East. Et puis, GM est très, très, très sérieux aussi dans son approche par rapport aux véhicules zéro. Donc, nous, vous savez, on a notre aspect de triple zero, là, le narrative qu'on a chez GM. Donc, on veut un monde sans émissions, sans crash. Donc, nous, notre but, c'est on fait des investissements qui vont suivre ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il n'y a pas longtemps. On a investi 2 milliards dans notre usine de Spring Hill au Tennessee qui va produire, entre autres, le Lyric. On a aussi notre Factory Zero à Détroit qui va produire le Hummer et la Cruze Origin aussi, qui est un véhicule à conduite autonome. Notre plan Orion qui développe les batteries Ultium-Ion. On a aussi...
Finalement, toutes les anciennes usines de Saturne ont été adaptées, hein? Parce que si tu me parles de Spring Hill au Tennessee, de l'usine d'Orion, c'est parfait. Au moins, on récupère, c'est pas pire.
Oui. Exactement. Puis GM s'est engagé à approvisionner 100% de ses installations américaines en énergie renouvelable d'ici 2030 et ses installations mondiales d'ici 2040. Cadillac a aussi annoncé qu'il sera 100% électrique d'ici 2030. Donc, on est très sérieux dans cette approche-là. Je crois que d'un point de vue investissement, on fait des investissements qui démontrent ce sérieux-là par rapport à notre édification de nos modèles. Et puis, le Canada n'est pas en reste. Écoutez, on parle du Canada, on a notre piste aussi qu'on vient juste de créer à Oshawa. Donc, on a notre centre de développement à Markham. Et on a une piste à Oshawa qui va être utilisée uniquement pour le développement des véhicules verts et aussi le développement des véhicules autonomes. Donc, le Canada est très sérieux dans cette approche-là. Et le GM Summer, je vous garantis qu'il s'en vient.
OK.
Ben, nous voilà un peu rassurés. Pendant le stunt auquel on a eu droit cette semaine, il était question du couple, hein, du GMC Hummer avec plus de quoi 11 000 livres-pieds et
11 500 livres-pieds de couple. C'est plus que 10 fois plus de couple qu'un Silverado 2500 HD Duramax diesel.
Bon, mais
j'ai un peu de misère à m'imaginer
mais
à quel point...
Il faut comparer des pommes avec des pommes parce que pourquoi on a adopté chez GMC la technique Tesla, c'est-à-dire de dévoiler le couple aux roues alors que les manufacturiers... j'allais dire normaux, mais plutôt conventionnels. Et c'est le cas de GM en temps normal, mentionne généralement le couple au moteur.
C'est vrai. Donc, bon, ça, c'est propre uniquement à GM. Là, vous l'avez dit, il y a Tesla qui utilise aussi cette méthode-là. Il faut comprendre que les véhicules électriques, ils fournissent un couple d'une manière qui est différente des moteurs à combustion. Donc là, je vais essayer de vous expliquer ça dans mes propres mots. C'est quand même assez complexe là, pour les auditeurs qui nous écoutent, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs moteurs. Sur exemple, sur le Hummer, il y a trois moteurs. Deux moteurs arrière et un moteur avant. Ces moteurs-là ont des ratios, on appelle ça des gear ratios, qui sont différents, dans le fond. Faut qu'on calcule ça d'une façon aussi qui est un peu différente. Si je vous essaie de vous comparer ça, là, on calcule le couple aux roues et non au moteur. Donc, sur un moteur traditionnel à combustion, on va calculer ça au moteur, puis on va faire ça aux roues en se créant un véhicule électrique. Donc, les deux moteurs arrière vont entraîner indépendamment les roues arrière sur un rapport d'engrenage fixe qui est différent. Donc, on parle d'un rapport de 10-5-1, puis sur l'engrenage en avant, on va parler de 13-3-1. Donc, quand on multiplie ces couples-là par rapport au rapport, ça nous amène à un 11 500 livres de pied de couple. Mais si, mettons, on met ça dans le mot de la majorité des gens, ce qu'ils pourraient comprendre, on parle d'environ 400 livres de pied de couple par moteur. Donc, en chiffre normal, si on veut, ça serait 1 200 livres de pied de couple.
Ce qui est déjà énorme.
Ça peut répondre un peu. Ce qui est énorme, on va se le dire.
Ce qui est déjà un peu plus de couple que le camion que je précitais tantôt avec le moteur diesel Duramax. Donc, c'est quand même pas rien.
Exactement. Donc, la même plateforme qu'un HD, mais beaucoup plus de couple qu'un moteur quand même le diesel HD. Donc, ça, c'est assez impressionnant de ce point de vue-là. Et puis, ça me fait rire parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit, quand on le met en livre pied de couple, c'est seulement 1 200 livres. Je ne sais pas qui c'est qui a besoin de plus que ça dans la vie.
Seulement, oui, c'est ça.
Ça me fait rire, ce commentaire-là.
Parce que déjà, c'est ça, un pick-up 2500 en moteur diesel, tu as du couple, on le disait à une autre
époque. Pour arracher un solage de maison.
Donc là, à 11 000, on sait même pas ça ressemble à quoi.
Moi, tu vois, à 11 500 livres, je me disais, d'après moi, on est capable de déplacer le stade. Quelque chose de même.
Oui, mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide, là.
Non, OK, c'est correct, j'aurais pu prendre un autre exemple. Excuse-moi. Écoute, je voulais. C'est intéressant que tu aies parlé d'électrification parce qu'évidemment, depuis quelques semaines, Philippe, et là, je t'amène sur un terrain peut-être un peu plus glissant qui ne concerne pas que GM, là, sois rassuré, mais je regarde ce que les manufacturiers nord-américains nous dévoilent et ce sont que de gros monstres. Un Hummer, comme vous avez dévoilé, Ram qui a dévoilé un TRX, Ford qui a dévoilé son F-150 hybride, mais les petits véhicules électriques ou les véhicules électriques qui, entre guillemets, seraient considérés comme un peu plus abordables, on ne les voit pas arriver. Le futur de GM, et je sais que tu es limité dans ce que tu peux me dire, mais rassure-nous, est-ce qu'on va avoir droit à des nouveaux produits GM 100% électriques? Parce que depuis quelques années, c'est la Bolt et c'est pas mal ça.
Oui, puis on nous a annoncé la Cadillac Lyriq, mais encore là, c'est une poignée d'acheteurs qui vont pouvoir se permettre...
Ça va être un véhicule dans les six chiffres, là, ça
ben
aussi.
Ben oui.
Bon, je vais vous couper tout de suite. Le Lyriq, ça ne sera pas un véhicule nécessairement dans les chiffres. Du moins, le prix d'entrée va vous surprendre. Donc, pour revenir à votre question...
99
995. On verra.
C'est ça.
Mais moi, je pense que vous pourriez bien être surpris par rapport au prix du Lyriq. Mais écoutez, je vais vous parler de tous les investissements qu'on a fait par rapport à nos usines. Donc oui, encore une fois, on est très sérieux par rapport à ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a la Bolt en ce moment. Oui, on parle de la Celestiq aussi. On va acheter la Celestiq dans ce que vous parlez. Le Lyriq, le GMC Hummer. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la Bolt EV depuis près de 4 ans maintenant. Et ouais. À mon avis, en moi, ça reste encore le véhicule électrique le plus abordable de l'industrie par rapport à l'autonomie qu'elle a.
Oui, sa disponibilité la rend intéressante aussi. Mais en même temps, on nous promet une version VUS depuis je ne sais pas combien de temps. Là, alors que
Germain,
on nous... Oui.
Je vais répondre à ta question. Et puis, je pense que tu vas être content de ma réponse. Écoutez, la Bolt EV qu'on appelle, dans le fond... s'en vient l'année prochaine. Je vous garantis de ça, même que je vous dirais qu'il y a la nouvelle Bolt EV qui s'en vient. Vous allez entendre parler de ça dans les prochaines semaines, si ce n'est pas les prochains mois. Et en 2021, ce
ouais,
modèle...
Oui, mais t'es là, tu peux nous en parler tout de suite, tant qu'à faire.
OK. Tu veux dire ce que je peux te dire. Ce qu'il faut se rappeler aussi, puis je pense que tout le monde a vécu ça... Là,
Ça sent la réponse du COVID.
Exactement ça. Le COVID-19 nous a frappé de plein fouet. Il faut comprendre qu'on ne s'entendait pas à ça. C'est pas propre à GM. Il y a beaucoup d'autres manufacturiers. Personne ne s'attendait à ça. Donc, il y a eu des délais de production. Quand on parle d'Equinox refonte, quand on parle du Traverse refonte, c'est des modèles qui ont dû attendre. Ils étaient supposés être en 2021. Maintenant, ils ont été repoussés en 2022. Ce qu'on a décidé de faire d'un point de vue chez GM, c'est qu'on voulait prioriser justement les véhicules électriques. Donc, les véhicules qui ont le moins de délai par rapport à tout ce qu'on était censé sortir en 2021, c'est les modèles électriques. Donc, on a vu un peu de délai avec le Lyriq, un peu avec le GMC Hummer, mais c'est des modèles qu'on a décidé de garder le plus près possible de la date originale du lancement et de garder un certain délai pour les modèles à combustion. Donc, encore une fois, ça prouve notre sérieux.
À l'exception, bien sûr, des VUS comme le Tahoe, le Suburban, le Yukon, l'Escalade, mais en même temps, je peux pas reprocher ça à GM.
Ben non, c'est des machines à imprimer de l'argent.
C'est ça. C'est le pain et le beurre de la compagnie. Puis si on n'a pas ça à vendre,
on fera pareil à leur place, là.
C'est ça, exactement.
Donc, c'est ça. Les boys, ça s'en vient. Si c'était pas du COVID, vous l'auriez déjà essayé, la Bolt EV. Mais je vous garantis que ça s'en vient. Puis ça s'en vient pas dans 10 ans, là. Ça s'en vient dès early 2021.
Bon, ben on va compter les jours sur le calendrier.
On va compter les jours. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, parce qu'évidemment, le temps file. Le Cybertruck de Tesla a été dévoilé, 7, 8, 9 mois avant le Hummer. Et c'est sûr qu'il y a des espions du côté de GM qui savaient que ce camion-là allait être dévoilé. Vous avez pris que 18 mois pour développer le Hummer, le GMC Hummer, ce qui est un exploit, il faut quand même le mentionner. Est-ce que tu considères que si Tesla n'avait pas dévoilé son camion électrique, le Hummer, GMC Hummer, ne serait-ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que tu penses que le Cybertruck a influencé les gens de GM? Parce qu'on sent qu'il y a une compétition qui va s'installer, là. C'est bien évident.
Bien, écoutez, c'est sûr que c'est un terrain un peu glissant. Je ne m'aventurerai pas beaucoup à commenter sur la compétition, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue personnel, moi, je pense que Elon Musk a fait, c'est louable. Il force les manufacturiers de ce monde à accélérer le processus d'électrification de leur flotte.
Absolument.
Ça, c'est à ton honneur. Honnêtement, pourquoi on ne voudrait pas vivre dans un monde où il y a plus de véhicules électriques? C'est un monde où, à mon avis, à moi, serait peut-être un meilleur univers à long terme pour la planète, l'environnement, ces choses-là. Donc, Elon Musk, lui, il force la main un peu des manufacturiers à développer des véhicules verts. Donc, est-ce que le GMC Hummer aurait vu le jour quand même? La réponse, c'est oui. Cybertruck ou pas, c'est l'avenir de GM. On croit un avenir qui est 100% électrique. On croit un avenir où il y aura zéro émission. Donc, on croit énormément aux véhicules autonomes aussi à travers tout ça. Donc, sans Tesla, ça serait arrivé pareil. Est-ce que ça serait arrivé avec la même cadence? Peut-être que oui, peut-être que non, je peux pas dire. Mais c'est sûr qu'il y a une belle rivalité qui va s'installer entre, mais à vrai dire, elle est déjà installée.
Bien sûr.
Il suffit de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Ce n'est que de la comparaison de Cybertruck avec le GMC Hummer. Donc, je pense que chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Ça va être aux consommateurs de décider ce qui fit plus leur lifestyle à eux, parce que je pense qu'il y a vraiment une avenue qui est un peu différente avec le Hummer du Cybertruck. Donc, encore une fois, oui, je pense qu'il va y avoir une belle bataille. Il y a le Rivian aussi qui s'en vient. Ford, je suis convaincu, vont sortir une camionnette 100% électrique. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va arriver. Puis, vous pouvez être sûr aussi que du point de vue qu'on a le GMC Hummer, un camionnette électrique du côté de Chevrolet ou GMC pourrait fortement arriver
voilà.
Plus tôt aussi. Donc, c'est tout ça s'en vient. La technologie est là. On verra qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais vous pouvez garantir qu'il y a un camionnette qui va sortir de ça aussi bientôt. Donc, une belle bataille à venir du point de vue des camions et des véhicules électriques. Puis GM, bien, on va être sûr d'être un chef de file dans ce segment-là. Puis je pense qu'on fait les choses pour prouver ça.
En attendant, on va continuer de vendre des Silverado puis des Sierra moteur 5.3
ben oui,
6.2.
C'est correct. Il
voilà,
n'y a pas
bien,
de problème là. Puis écoute, je peux te dire que j'ai bien hâte de conduire ça, de m'installer à bord de ce Hummer-là, c'est une curiosité pour ben des gens. Ça a fait beaucoup jaser. On l'a vu sur le site du Guide de l'auto, sur nos réseaux sociaux. Alors, continuez de nous faire saliver jusqu'à ce que ce camion-là arrive, en espérant qu'il arrive à la date prévue. C'est toujours ce qu'on espère. Parce que d'autres constructeurs américains qui ne tiennent pas toujours promesses. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci beaucoup,
Philippe, d'avoir été là.
Ça fait plaisir, messieurs. Merci de m'avoir donné le temps. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.
À toi aussi. Merci.
Salut.